France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est non seulement l'un des plus célèbres violonistes de notre époque, l'un sinon le musicien classique le plus populaire, mais aussi la voix des musiciens qui portent le plus au-delà de leur milieu. Il est désormais aussi chef d'orchestre, directeur artistique depuis cette rentrée de l'orchestre de chambre de Lausanne. Bonjour, rebonjour Renaud Capuçon.
Bonjour.
À deux jours de deux concerts avec l'orchestre de Paris dirigé par Klaus Makela à la Philharmonie de Paris. Vous sortez deux nouveaux disques cet automne, l'un, un violon à Paris, avec Guillaume Bellum au piano, sortira dans un mois, une sélection de 22 morceaux, ceux-là même que vous aviez joué en vidéo et diffusé sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement. Et puis l'autre disque, il est déjà disponible, votre premier album comme chef de l'orchestre de chambre de Lausanne. Certaines pièces où vous êtes uniquement à la direction, d'autres où vous jouez également. C'est votre premier disque, si je ne m'abuse, où vous êtes aussi sans la photo de votre instrument sur la pochette?
Oui, c'est surtout... La première fois que je suis face à la musique sans mon instrument, c'est ce qui est le plus étonnant. Mais finalement, c'est pas une annonce AFP et puis tout d'un coup on devient chef d'orchestre. Je crois que c'est un long cheminement. Et je dirigeais la semaine dernière l'orchestre des jeunes Gustav Mahler, qui est l'orchestre dans lequel j'avais été violon solo avec Claudio Abbado et Seiji Ozawa notamment il y a 25 ans. Et je me suis trouvé finalement face à ces jeunes musiciens qui évidemment n'étaient pas les mêmes jeunes musiciens puisque à l'époque ils n'étaient pas nés, mais je leur ai dit voilà, il y a 25 ans Claudio Abbado m'a tendu sa baguette pendant quelques minutes pour que je dirige l'ouverture de Tannhauser et pour qu'il aille écouter la balance, et c'est à cet instant précis que j'ai su qu'un jour je dirigerais. Il s'est passé 25 ans et c'était très émouvant pour moi de me trouver finalement face à ces jeunes musiciens pour une symphonie de Schubert et un concerto de Mozart. Et ça montre simplement que la vie, d'abord, elle est pleine de surprises et qu'elle est surtout faite, dans mon cas en tout cas, d'une très lente maturation, d'une très lente construction. Donc voilà, entre l'instant où j'ai su qu'un jour je dirigerais et le moment où j'ai passé le pas de monter sur un podium, il s'est passé presque 25 ans.
Pourquoi ce désir-là, vous l'avez sinon caché ou en tout cas tu pendant longtemps alors que vous dites qu'il était en vous?
Parce que j'avais d'innombrables autres choses à faire et que je savais que de toute façon c'était pas le moment. Je savais que tout ce que je faisais dans ma vie de musicien, de violoniste, d'enseignant, dans les organisations des divers festivals, c'était une façon aussi d'apprendre ce qui allait me servir ensuite pour être chef d'orchestre. Donc c'était à la fois conscient et puis aussi en attente du moment où il y aurait cette espèce de déclic et surtout cette envie de me jeter dans le vide, parce que c'est finalement ça. Ce qui me retenait depuis à peu près une dizaine d'années, c'était le respect des musiciens que j'ai en face de moi et l'idée d'être capable de les intéresser, de les emmener, parce que c'est ça un chef d'orchestre, c'est finalement quelqu'un qui inspire, c'est pas quelqu'un qui donne des ordres, donc c'est quelqu'un qui fait de la musique de chambre, qui l'exprime avec ses mains, avec son être. Voilà. Enfin, on peut passer des heures à parler de ce qu'est un chef d'orchestre. En fait, il n'y a pas vraiment de définition. Il faut simplement donner envie, je crois.
Ces jeunes, on en parlait dans le reportage de Louis Valentin Lopez il y a 20 minutes, qui font de la direction d'orchestre à 20, 25 ans. Samir Rachid, qui était violoncelliste du Quatuor à Rhodes, qui a remporté le deuxième prix à Tokyo il y a une semaine. Victor Julien Daferrière, que vous connaissez absolument bien, violoncelliste qui fait de plus en plus de direction. Chacun sa route, ou est-ce que c'est pour vous trop tôt de commencer à 20, 25 ans?
Ah non, il n'y a pas trop tôt. C'est vraiment, vous savez, c'est comme les gens qui jouent les sonates et partitas de Bach ou les suites de Bach. Il y en a certains qui les jouent à 15 ans, d'autres à 20 ans et d'autres à 80 ans et d'autres qui les jouent jamais. C'est une question de timing personnel, de réalisation de ses envies, d'acceptation ou non d'une certaine maturité, d'attente de cette maturité. Je crois que chaque être est très différent et je juge personne.
Renaud Capuçon est notre invité jusqu'à 9h ici. Vous dirigez du violon Fratres d'Arvo Pärt.
Thank you.
le début de Fratres d'Arvo Pärt avec Renaud Capuçon à la direction et au violon. C'est l'Orchestre de Chambre de Lausanne. C'est votre nouveau disque paru chez Erato. Moi, j'ai été étonné en recevant ce disque et en voyant que c'était ce compositeur estonien, contemporain, très connu, que vous avez choisi pour votre premier disque de chef d'orchestre. Pourquoi ?
En fait, la question s'est pas posée, j'ai envie d'enregistrer un premier disque de chef d'orchestre. La question, elle s'est posée comme toujours, elle s'est posée de façon organique. Qu'est-ce que j'ai envie d'enregistrer avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne? Et c'était ce compositeur. C'était aussi associé à notre concert de rentrée qui a eu lieu il y a 3 semaines, où il y avait 2 concertos de Bach qui entouraient Tabula Rasa. En fait, la pièce centrale de ce disque, c'est Tabula Rasa, qui est une pièce pour 2 violons et orchestre de chambre, qui a été écrite pour Gidon Kremer et Tatiana Gridenko dans les années 70, 75, 76, je crois, que j'avais joué avec Alina Ibrahimova il y a de nombreuses années, que j'adore, et j'avais l'intention de la jouer avec notre violon solo, François Sauchard, qui est un ancien pote de conservatoire, et que j'ai rencontré quand on avait 15 ans. Et il se trouve que c'est le violon solo de l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Donc, c'était l'idée centrale. Voilà, je suis parti de là, et ça fait très longtemps que je veux enregistrer des œuvres d'Arvo Pärt et le Fratres aussi. Voilà, donc le point de départ, il est là. Ensuite, ce disque, il devait être enregistré maintenant. Et forcément, comme on a eu beaucoup de temps pendant la pandémie, on a anticipé. Ce qui nous a permis aussi de nous connaître mieux avec l'orchestre, puisque je commence officiellement en septembre. On a passé de nombreuses sessions d'enregistrement, on a fait d'autres programmes aussi en captation, et ça a été finalement une année de connaissances, d'apprentissage, comme un peu un avant-mariage et une période de rencontre où on se connaissait bien sûr, mais on a appris à mieux se connaître, et dans des situations un peu extrêmes, puisqu'il n'y avait pas de public, c'était des situations, comme vous vous souvenez très bien, puisqu'on a passé 1 an et demi dans ces situations-là. Et voilà pourquoi Arvo Pärt, qui est un compositeur qui m'accompagne depuis longtemps, et pour qui j'ai une immense admiration, et c'est une musique qui fait du bien, c'est une musique qui apaise, c'est une musique qui pousse à la méditation, quelle que soit sa religion, et je trouvais aussi que ça correspondait à une époque où on en avait besoin.
Quand on la joue, Renaud Capuçon, est-ce qu'on ne peut pas être emporté presque par son côté hypnotique?
Si, c'est d'ailleurs beaucoup plus... Les détracteurs d'Arvo Pärt disent que c'est facile, que tout est facile, que ça n'a pas d'intérêt, etc. C'est assez paradoxal. Moi, je pense que la soi-disant facilité est justement extrêmement complexe, et que, pour par exemple, les textures sonores, les différences de couleurs qu'on peut trouver à l'orchestre, en tout cas pour nous, ça a été un travail formidable de se trouver autour de cette texture, d'essayer de construire la sonorité la plus pure possible, et Dieu sait si cet orchestre a ces qualités-là.
Être violon sur certaines pièces, est-ce que c'est une façon pour vous d'avoir une transition douce, ou bien de ne pas perdre votre public qui vous aime, qui vous suit comme violoniste?
Les questions, elles se posent musicalement. C'est-à-dire que l'année prochaine, j'aurai des programmes où je jouerai pas du tout du violon, où j'accompagnerai par exemple Marie-Jo Pirèche ou Martha Argerich. Et franchement, ça serait idiot de penser qu'il faut que je joue du violon. À partir du moment où on assume son rôle, il faut l'assumer totalement. Et par contre, quand les programmes nécessitent que je joue du violon, j'en jouerai évidemment avec plaisir, parce qu'il n'est pas question d'arrêter.
On peut voir sur le site d'Arte, Arte Concert, le concert de rentrée avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Vous dirigez notamment la symphonie italienne de Mendelssohn. Quand on vous voit à la fois au violon dans Bach, dans Arvo Pärt, et puis ensuite dans Mendelssohn, on peut se dire comment vous avez vécu ces premiers concerts? On vous sent extrêmement concentré, voire ému.
Bah oui, parce que d'abord c'est le début d'une histoire avec cet orchestre, donc ça c'est très émouvant, très exaltant. Et puis je pense que le fait d'être passé, d'être arrivé à franchir ce cap que je m'interdisais depuis de nombreuses années, de le diriger sans mon instrument, c'est finalement accéder à un univers qui est sans fin. Et c'est ouvrir une fenêtre sur un monde qui s'ouvre à moi et dont je sais qu'il est sans fin, et qu'il me faudrait une quinzaine de vies pour arriver à faire toutes les envies musicales que j'ai et tout ce que j'ai envie de partager. Donc c'est à la fois exaltant, à la fois extrêmement impressionnant, et je l'aborde avec une immense humilité, et je suis face aux musiciens comme quelqu'un qui veut partager avec eux, mais pas comme quelqu'un qui veut leur dire les choses. Et je veux dire que ces musiciens sont merveilleux pour ça, c'est qu'ils m'ont accepté immédiatement et on avance ensemble. Et le fait d'être face à un orchestre sans son instrument, je pense qu'on est plusieurs personnes que je connais m'ont dit qu'ils voyaient, en me voyant diriger, ils voyaient des choses de moi qu'ils ne voyaient pas quand je joue du violon. C'est-à-dire que ça ouvre aussi sur... Je pense qu'on dit, on n'est pas concentré sur l'instrument, mais évidemment, il n'est plus là, et donc on est totalement dans la musique. Ce qui ne veut pas dire que quand on est avec son instrument, on n'est pas totalement dans la musique, mais inévitablement, on a quand même une partie du cerveau qui est centré sur son instrument. Il y a des choses à faire, des doigts à bouger, etc. Et donc là, vous êtes uniquement dans la musique à 100% de vos gestes, etc. Et peut-être c'est ce qui est troublant, c'est que tout d'un coup on est, comme je cherche à faire depuis que je joue cet instrument, à être dans la musique à 100%. Et là, c'est encore un autre niveau de pourcentage, je dirais.
Voici Renaud Capuçon à 100% dans la musique et sans son instrument dans une autre œuvre d'Arvo Pärt avec l'orchestre de chambre de Lausanne. Le disque vient de sortir chez Erato. Souma d'Arvo Pärt avec l'orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par Renaud Capuçon, notre invité ce matin sur France Musique. Le disque s'appelle Tabula Rasa. On écoutera d'ailleurs un extrait de cette œuvre d'Arvo Pärt tout à l'heure. On évoquait Claudio Abbado tout à l'heure, Renaud Capuçon. À qui vous avez pensé, à qui vous pensez quand vous montez sur scène comme ce premier concert que vous avez donné en septembre? Est-ce que c'est une figure qui vous a marqué dans sa direction? Vous n'avez pas pris de cours de direction comme ces jeunes dont on parlait tout à l'heure par exemple?
Non.
Enfin, vous avez pris des cours pendant 20 ans en regardant les chefs à
côté
de vous.
Oui, ça ne suffit pas bien sûr. Mais non, évidemment, pour répondre à votre question, Abado est permanent, en permanence présent. Parce que j'ai joué énormément sous sa direction en tant que violon solo de l'orchestre Gustav Mahler, et puis je l'ai vu diriger pendant toutes mes études à Berlin, quasiment. Enfin, j'allais à tous les concerts du Philharmonique de Berlin, et quand le concert était donné trois fois, j'allais aux trois concerts. Donc j'ai entendu cet orchestre dirigé par Abado des centaines de fois, vraiment. Donc, évidemment qu'il m'a marqué, et aussi tous les chefs que j'ai observés de très près durant les 25 dernières années, parce que j'allais quasiment tout le temps écouter la deuxième partie, parfois les répétitions aussi, et j'ai consciemment ou inconsciemment observé les chefs d'orchestre comme si j'étais un assistant qui n'existait pas. J'étais évidemment l'assistant de personne, mais j'étais déjà dans dans cette envie d'un jour diriger, et donc j'essayais de, comme une éponge, de réceptionner tout ce qui me paraissait le plus important. Et Dieu sait si j'ai joué avec des chefs qui m'ont inspiré et qui, et encore aujourd'hui. Donc j'ai la chance d'avoir des potes chefs qui
je passe.
Oui, mais aussi Alain Altinoglu, François Xavier Roth ou Lav Chani, qui sont des gens que j'appelle très souvent pour demander des conseils. Et c'est précieux, conseils de répertoire. Je prends mon téléphone et je dis, est-ce que tu penses que je peux diriger telle œuvre? Est-ce que c'est trop tôt? J'ai envie, mais je sais pas. Ou au contraire, d'autres œuvres où je dis, mais ça, c'est vraiment pas possible. Ils me disent, mais non, ça, il y a aucun problème. Non, c'est précieux. Quand on a la confiance d'un ami et en plus d'amis qui sont ces grands chefs d'orchestre, ça aide beaucoup. Et je pense que l'inspiration, elle vient aussi de tous les chefs qui m'ont effectivement, qui m'ont apporté et Abado en priorité. Oui.
C'est lui aussi qui vous a donné ce goût, cet intérêt qu'on retrouve tout le temps pour les jeunes musiciens, le soutien aux jeunes.
Mais c'est essentiel. Moi, je donne toujours la comparaison quand on a un enfant. On vous félicite pas d'avoir appris à marcher à votre enfant et d'avoir appris à lire à votre enfant. On vous dit pas, mais c'est extraordinaire, c'est totalement naturel. Et ça devrait être le cas pour nous. La transmission, le fait d'enseigner, c'est, y a rien d'extraordinaire. C'est juste, on transmet. Et c'est vital aussi pour les gens qui ont reçu comme nous. Mais bien sûr que Abado, qui utilisait ce mot génial et disait, il y a un nom en allemand qui est Zusammenmusizieren, qui veut dire musiquer ensemble. C'est un mot qu'on peut pas traduire en France, mais c'est tellement vrai. Musiquer ensemble, ça veut dire faire la musique ensemble. Et Abado jouait avec les jeunes une partie de l'année, alors qu'il était le chef du Philharmonique de Berlin quand même. Il passait une partie de l'été avec nous et on sentait qu'il était heureux, qu'il était libre. Et je l'ai constaté pour la première fois, alors que j'ai eu bien sûr une mini expérience, mais je me suis retrouvé devant ce même orchestre Gustav Mahler la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est un outil musical incroyable. Il y a une candeur chez ces musiciens, une volonté, une discipline, ça on n'en parle même pas. Donc vous n'avez pas un bruit, et surtout, tout est possible. Vous pouvez essayer, il n'y a pas d'a priori. C'est pas des gens qui ont joué déjà cette symphonie 15 fois, ils l'abordent pour la première fois. Donc il y a cette candeur merveilleuse qui est celle que nous, un peu plus âgés, on devrait d'ailleurs avoir. Et c'est pour cette raison que le fait d'apprendre avec ces jeunes nous fait évoluer en permanence, puisqu'on se retrouve dans cette situation où on remet tout à plat, on fait table rase de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a parfois mal appris, et on est vraiment au cœur de la musique et on construit ensemble.
Nouveaux Horizons reprend à Aix, rien à voir avec le nouveau parti politique d'Edouard Philippe. C'est du 4.
Il nous a copié.
C'est du 4 au 7 novembre. 15 interprètes, des créations. Tous les concerts sont enregistrés par France Musique. Deuxième édition. C'était né l'année dernière de cette crise. Ce n'était donc pas ponctuel, Renaud Capuçon, pour faire face à la crise, ça continue.
C'était un one shot parce qu'il y avait une nécessité. Et puis, comme ça a été tel bonheur de se retrouver pendant une semaine avec 10 compositeurs, 15 jeunes musiciens, Gérard Cosset et moi-même, qu'on a eu très envie de continuer. Et voilà, les commandes sont lancées, elles sont en train d'arriver sur nos bureaux. Il y a beaucoup, beaucoup de notes à apprendre. J'ai moi-même une pièce magnifique de Bastien David, qui est un jeune compositeur, qui s'appelle Bec et Ongles. Et je dois dire que je vais y passer beaucoup d'heures et beaucoup de nuits, je pense, parce que c'est extrêmement difficile. Mais voilà, on s'est rencontrés avec Bastien la semaine dernière. Et quel bonheur de travailler avec un jeune musicien qui pourrait être mon fils, qui a l'âge d'être mon fils, et qui m'explique ses couleurs, ses idées, ses envies. Et en recevant la partition, je comprenais absolument rien, mais vraiment. Donc je l'ai appelé, j'étais en panique. Et l'espace d'une heure et demie, il m'a pas rassuré, mais il m'a indiquer en fait ses volontés, et c'était tellement de la poésie du début à la fin que au lieu de maintenant de voir une feuille noire remplie de notes, je vois de la poésie. Et c'est ça le miracle de la création et du fait de travailler avec un compositeur, c'est que on est face à une situation où on peut poser les questions. Et encore une fois, plus je vieillis et plus je joue Mozart, Schubert et Brahms, et plus je m'inspire de ces compositeurs vivants parce qu'ils me donnent plus de liberté.
C'est du 4 au 7 novembre, Nouveaux Horizons à Aix-en-Provence, tous les concerts enregistrés par France Musique. Et puis, par rapport à l'année dernière, quand même quelque chose de nouveau, c'est qu'il y aura du public.
Il y avait du public. Puisqu'on était pile l'année dernière, c'était un mois avant que ça referme. Et il faut préciser aussi que l'entrée est gratuite et que ces compositeurs, donc qui sont jeunes et qui viennent d'écrire une pièce pour nous, sont entourés de compositeurs comme Elgar, Ravel, Debussy, Brahms. Et donc le public qui vient écoute avec la même, je dirais, candeur. Parce qu'ils sont totalement candides, ces gens qui viennent écouter gratuitement les concerts, une œuvre de Bastien David, de Gianni Ferso, et une pièce de Brahms qu'ils n'ont jamais entendue. Et c'est là où on touche un nouveau public, parce qu'on ne leur parle pas de musique contemporaine, mais on parle de musique tout simplement.
Je mélange les pinceaux, Renaud, parce que vous faites tellement de choses. Le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, vous le présentez ce soir. Déjà, vous êtes donc confiant en l'avenir de ces prochains mois, cette fois.
Écoutez, je pense après une annulation complète en 2020, une annulation de public en 2021 et des captations, maintenant on est prêt à tout. Donc cette année, on est prêt évidemment pour le festival, et on aura un grand focus sur les orchestres francophones qui me tenaient à cœur depuis longtemps, et j'ai pensé que c'était la période adéquate pour le faire. Mais tout ce que vous dites de ces actions et de mes activités, c'est finalement toujours de la musique. C'est remettre en permanence la musique au cœur, et comme je suis quelqu'un qui est, pas comme on le pense, boulimique, mais au contraire qui aime la musique, parce que quand on est boulimique, on n'aime pas la nourriture, donc c'est une mauvaise définition. Moi, je suis quelqu'un qui aime la musique vraiment profondément depuis que je suis né, et qui fait tout pour la servir, et jusqu'à ma mort, je pense que je serai un serviteur de la musique.
Il l'a dit tout à l'heure, c'est l'un de ses compositeurs préférés. Voici Renaud Capuçon, il joue Brahms avec Guillaume Bellum.
Thank you.
Brahms, la cinquième dans son Hongroise, Renaud Capuçon et Guillaume Bellum au piano. Un violon à Paris, ça sort dans un mois. C'est 22 morceaux, des morceaux que vous aviez joués pendant le premier confinement, Renaud Capuçon en vidéo. C'était diffusé sur les réseaux sociaux. Pourquoi, avec ce disque, prolonger ce moment?
Déjà, tout simplement parce que on avait enregistré ça de façon avec des bouts de carton, quoi. C'est-à-dire que Guillaume s'enregistrait chez lui, enfin, c'était totalement amateur, même si on a été dans un grand professionnalisme. Et donc, c'était une façon de présenter ses œuvres d'une belle façon, c'est-à-dire avec un vrai studio, un vrai piano, et ensemble, surtout. Donc ça, c'était la première raison. Et puis, parce que c'était... Depuis que les concerts se sont remis à fonctionner et qu'il y a un public, systématiquement, quand je joue un concert, les gens que je vois après le concert et qui viennent me voir ne me disent pas bravo pour le concert que je viens de donner, mais ils me disent merci pour ces moments. Mais absolument unanimement. Que ça soit un veilleur de nuit dans un hôtel, un chauffeur de taxi, quelqu'un dans le métro, les gens viennent me voir en me disant merci pour ces moments-là. Et c'était il y a un an et demi. Et donc, au fur et à mesure que ça passait, je me suis dit, il faut le faire. Tout simplement, ne serait-ce que pour rendre hommage à ces gens qui m'ont écrit des milliers de messages auxquels je n'ai pas répondu. C'était un moment particulier, c'était un moment qui a marqué, je pense, là je parle de l'année et demie, hein. Cette pandémie a marqué durablement, je pense aussi, tout l'écosystème de la musique notamment. Je fais partie des gens qui pensent que plus rien ne sera vraiment comme avant, même si on a l'impression que tout repart. C'est un peu un leurre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, et il faut être préparé à des changements majeurs, et je pense que ça serait ne pas être connecté avec la réalité que de vouloir penser que tout va se remettre à fonctionner comme avant. Je pense notamment que les grandes tournées internationales avec des orchestres qui viendraient à 150 personnes des États-Unis et qui viendraient tourner en Europe pour 25 concerts, je pense que cette époque, en tout cas en ce moment, elle est entre parenthèses. Je pense aussi, et c'est une évidence, quand je vois ce qui se passe en Asie, que pour nous qui y allons normalement deux ou trois fois par an, on le voit sur nos calendriers, c'est absolument annulé, où on vous demande 3 semaines de quarantaine. Donc, la situation, elle est différente et c'est à nous de nous adapter.
Vous-même, Renaud Capuçon, il y a des choses que vous feriez plus, par exemple, je sais pas, prendre l'avion pour aller faire un concert au Japon, en Australie?
Alors, je pense que il y a une remise à plat et une prise de conscience, oui, qui fait qu'on va chacun, en tout cas pour ma part, organiser les choses différemment. Peut-être plus consciemment. Vous savez, c'est comme si on était dans un train à pleine vitesse depuis des années et le train allait à 200 à l'heure tout le temps. Donc, tout le monde était dans le train qui allait très vite. Tout d'un coup, le train s'arrête pendant un an et demi. Donc, pendant un an et demi, vous êtes au bord du quai et vous avez le temps de réfléchir et de vous dire, est-ce que j'ai besoin d'être dans ce train en permanence qui n'arrête jamais? Ok, peut-être pour certains oui, pour d'autres non. Et moi, je fais partie des gens qui ont envie de prendre le train quand j'ai envie de le prendre. C'était imagé, bien sûr.
Ceux qui aiment Renaud Capuçon prendront le train et iront le voir en concert à la Philharmonie de Paris mercredi et jeudi avec l'Orchestre de Paris dirigé par Klaus Makela. Ce sera à Korngold, hein, c'est ça?
Absolument.
Et puis deux disques, un violon à Paris qui sort dans un mois et Tabula Rasa, le titre de cet album. On va se quitter avec cette œuvre d'Arvo Pärt. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu une table rase totale sur la culture? Vous aviez poussé un coup de gueule à ce micro d'ailleurs en début d'année. Vous aviez parlé de ce projet d'une grande bibliothèque musicale de Rameau à nos jours. Tout n'a pas été fait?
Non, rien n'a été fait en ce qui se concerne ce projet, ce qui n'est pas grave du tout. J'ai aucun problème avec ça. Le seul regret que j'ai, c'est que dans une période où tout le monde était à l'arrêt et on avait une capacité de réfléchir, de se mettre ensemble, à imaginer des projets. Et je trouve que on a manqué de vision et on a manqué de vision sur du long terme. On a manqué de faire table rase et justement de parce que le président avait parlé de parfois il parle de renverser la table. Et ben pour la culture, je trouve qu'on a manqué cet instant et que ça aurait été une façon extraordinaire de se mettre autour d'une table et de réfléchir tous les artistes ensemble. Et Dieu sait si nos cerveaux étaient libres pendant cette période, à comment faire bouger les choses, comment réformer peut-être un jour cette politique des conservatoires qui pose problème dans notre pays, de penser à d'innombrables sujets. Pourquoi on a encore cette espèce de côté pyramidal alors que partout en Europe on est dans des systèmes de hors-schule, et pourquoi ne pas faire ça en France? Enfin, il y a tellement de sujets à aborder et je trouvais que cette période aurait pu être propice à ça. Alors on verra si maintenant, sans pandémie, on peut arriver à aborder ces sujets.
C'était le dernier mot de Renaud Capuçon au violon et à la direction ici. Rupert, Tabula Rasa, avec l'orchestre de chambre de Lausanne, dirigé du violon par Renaud Capuçon et François Sauchard. Merci Renaud, à bientôt.
Merci à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.